I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. La prise de son et l'équipe technique ce soir ici au bar de Bel Air, composée de Pierre-Éric Char, Jean-Louis Deloncle et Tard Bouclifa. Réalisation Daniel Finot. Et autour de moi, ce soir, comme tous les vendredis soirs, en direct, en public du bar Le Bel Air. Ce soir, Florence Colombani, Charlotte Garçon et Thierry Chaise pour parler de Argent Amer de Wang Bing, Thelma de Joachim Trier et Western de Valeska Grisbach. Boris Pino est également avec nous, surveillant déjà le fil Twitter, Facebook, pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez formuler sur les films dont nous parlons ce soir. Il y aura bien sûr des cadeaux à gagner en fin d'émission. Ce soir, des invitations pour découvrir l'exposition sur grand écran David Hockney à la Royal Academy of Arts. Ce sera le 28 novembre au cinéma. Alors sur la petite table installée presque sur le dance floor du Bel Air ce soir, je vois qu'il y a des notes de toutes sortes, alors imprimées très sagement sur un classeur qui a vécu en dessous, un Thierry Chaise, visiblement. Charlotte Garçon à l'alterne, elle a des choses imprimées et sa belle écriture bleue également. Florence Colombani, un petit carnet, tout petit, carnet de projection.
Carnet de post-projection.
De post-projection et de post-voix aussi pour vous ce soir, hein, parce qu'il fait un peu frais dehors, on l'a remarqué. Vous avez pris froid, vous aurez peu de voix, mais vous aurez quand même tout le temps de parler, bien sûr. Et on commence avec ce nouveau film de Wang Bing, Argent Amer, qui succède à Taang, dans lequel le cinéaste chinois a suivi l'exode d'une ethnie chinoise chassée de Birmanie, qui documentait ainsi un fait qui a depuis fait, hélas, les titres de l'actualité. C'est un autre exode que nous dévoile Argent Amer, exode économique pour 300 000 ouvriers chinois venus de régions pauvres qui font vivre 18 000 petites entreprises de confection pas très loin de Shanghai. Alors voilà pour une fois, moi qui ne les aime pas beaucoup, une bande-annonce assez juste à l'image de ce film, parce qu'elle nous fait passer une atmosphère à une autre, elle nous fait rentrer dans les petites boutiques, dans les ateliers, dans les intérieurs, dans les rues de cette ville, c'est à une centaine de kilomètres de Shanghai, où on a d'abord suivi des gens qui partaient de chez eux, qui faisaient un long trajet, le bus, le train, des trains où l'on dort, puisque le voyage est si long, pour arriver vers l'endroit où normalement il doit y avoir du travail, où la vie sera peut-être meilleure en 2h35, format assez court pour Wang Bing pour cette fois, mais je crois qu'il y a un autre film qui est prévu sur le tournage, avec les rushs du tournage de celui-ci, film documentaire comme toujours, mais chez Wang Bing, il y a quand même toujours cette sensation de ne pas tout à fait comprendre la nature exacte. On aurait bien du mal à dire c'est une école documentaire comme celle-ci, c'est, on est parfois en territoire quasiment fictionnel, mais c'est bien du réel qu'il nous filme toujours. Charlotte Garçon, premier regard sur Argent amer.
Oui, c'est vrai, cette sensation qu'on ne sait pas vraiment où on va, et pourtant le film commence par ce long voyage, vous l'avez dit, donc on sent bien qu'il y a un exil, on sait qu'il y a une destination très importante, mais la longueur même de ce voyage m'a vraiment saisie, mais presque engourdie aussi. C'est-à-dire que Wang Bing filme dans le train des gens qui s'endorment, mais comme dans un conte de fées. C'est-à-dire qu'ils dorment n'importe où, dans des
positions invraisemblables, dans les endroits.
Dans les toilettes, dans la tête, dans le lavabo des toilettes. Enfin, c'est extraordinaire. Et du coup, c'est vraiment la première occurrence de ce fil du sommeil qui va traverser tout le film, avec cette idée que peut-être pour que lui filme les autres qui dorment, il faut que lui ne dorme pas. Et j'ai trouvé le film très, à la fois d'abord très déroutant, parce qu'il y a toujours une sorte de vertige documentaire, justement. On se dit, mais en fait, où est-ce que je suis enfoncée dans ce réel, et est-ce que je vais réussir à faire sens, à en faire quelque chose? Et c'est inquiétant. Moi, ça me refait ça à chaque fois, et je trouve que c'est un vertige qui est très propre au cinéma, vraiment documentaire, qui n'essaye pas de faire fictionner le réel, mais qui nous mène jusqu'à ce vertige-là, de se dire, mais pourquoi au fait je suis en train de regarder ça? Parce que ça dure, etc. Et puis en fait, cette insomnie et ce sommeil, à la fois cette grande fatigue, va se retrouver dans la deuxième partie, quand on arrive dans cette ville et qu'on s'aperçoit que c'est complètement fou, parce qu'on a l'impression, alors c'est la façon dont il la filme aussi, que cette ville n'existe que par le travail. Et c'est pas une company town à l'ancienne américaine, où il y avait un patron qui logeait ses ouvriers dans une ville. C'est vraiment plein de petites fabriques, mais on se dit que les gens font des journées de travail immense, et que Wang Bing est là avec eux vraiment très physiquement et ne dort pas, parce qu'en plus ils sont évidemment insomniaques tellement ils travaillent toute la journée et tellement ils sont épuisés. Et le film, je trouve, est très fort sur cette fatigue, en fait, qui est vraiment la vraie atteinte qui est faite aux gens. C'est par cette fatigue qui fait qu'on n'arrive même plus à dormir.
Bah, une des employées, notamment, qui dit à un des patrons, mais en fait, vous dormez jamais, parce qu'elle est tout le temps en train de compter et recompter ses billets, les pièces produites. Thierry Chaise, Argent amer, Wang Bing.
Bah oui, c'est passionnant, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Charlotte. On a l'impression d'être jeté, comme on serait jeté dans de l'huile, quoi. Il y a un moment où c'est une culture qu'on connaît peu ou mal, qu'on connaît de mieux en mieux grâce à ses films à lui, plus on les suit. Et c'est ça qui est formidable, c'est que j'ai l'impression qu'il laisse au spectateur le soin, donc c'est 2 ans de tournage, un montage qui fait 2h36 pour ce film-là, le soin de s'intéresser à ce personnage ou d'autres, de plonger là, et petit à petit, de remonter le fil et d'essayer de comprendre, en effet, là où on est. La difficulté, c'est toujours ça, c'est de se mettre à la bonne distance. Il y a des scènes qu'il filme, on se dit, mais comment est-ce qu'il n'intervient pas? Moi, j'ai une scène qui m'a vraiment frappé. Cette femme, agressée par son mari, juste elle attend donc qu'il donne un peu d'argent, elle est dans cette petite boutique, et c'est une scène qui dure.
Oui, parce qu'il la malmène physiquement.
D'abord moralement, puis ensuite très vite physiquement, et ça dure, ça va durer, et le temps long est là, et là c'est vraiment, on sort presque du film, on se pose, on se dit, mais comment fait-il pour ne pas agir? Qu'est-ce qu'il cherche? Et là, on revient sur un flot de questions. Au moment où on croit avoir trouvé des réponses, de nouvelles questions arrivent. Et je trouve ça vraiment passionnant qu'à la fois, on s'intéresse à cette plongée dans cette culture, et on s'intéresse aussi au cinéma en même temps. Et les deux domaines sont là et sont vraiment bien ensemble. Aucun n'interfère sur l'autre, aucun ne gêne l'autre. Et on est aux aguets pendant 2h36, on vit physiquement le film, en effet.
Alors, c'est vrai que cette scène est longue, et je voudrais pas qu'on parle que d'elle, mais quand même, c'est une scène limite, me semble-t-il. Oui. Moi, j'avais jamais vu ça, ni dans le cinéma de Wang Bing, et pourtant, on a vu des choses très dures de vie. Celle-là, bon, demain, on l'a entendu dans le titre du journal, c'est la journée contre les violences faites aux femmes, et quand on voit cette séquence qui est très longue, parce qu'il y a d'abord des gens qui sont dans la boutique en train de jouer un jeu, et quand ça commence à mal se passer entre le mari et sa femme, ils sortent, on peut pas jouer si vous vous disputez. Et ça dure très longtemps, ils restent dehors, et puis il y a quand même quelqu'un qui va finir par intervenir, mais on se demande où il est avec sa caméra, Wang Bing, comment il la tient, parce que c'est caché, pas caché, est-ce qu'il va faire les quelques pas qui séparent de l'entrée de la boutique. Enfin, c'est une scène qui pose question. Moi, je c'est pas encore tout à fait descendu dans mon esprit. J'ai pas décanté ça. Florence Colombani.
Oui, je pense que le film existe beaucoup par cette triangulation entre le metteur en scène, le spectateur et les personnages. Et il y a quelque chose quasiment du prêtre-ouvrier dans la démarche de Wang Bing, je trouve, dans ce film. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il est constamment avec ses personnages, qui ne sont pas ses personnages, qu'il vit et qu'il pose plutôt comme des frères de souffrance, mais au point qu'on se pose vraiment la question de en quoi. Qu'est-ce qui le rend, lui, compagnon de cette souffrance ? Je pense qu'il y a quand même un problème éthique. C'est pas du tout pour le condamner, c'est simplement, je trouve, le film pose cette question éthique de sa place dans le film. On se demande même où il dort, puisque là où ça se passe, essentiellement, c'est donc dans ses ateliers, qui sont des pièces minuscules, et dans les pièces où les gens dorment, c'est une espèce de dortoir, où d'ailleurs, à un moment, quelqu'un lui dit « ne filme pas, ouais. Arrête de filmer », et lui suit cette personne, rentre dans la pièce avec sa caméra. Donc on est mis un peu en demeure aussi de se demander « est-ce qu'on a le droit de voir ces images par moment ?» Et donc c'est un film pour ça qui est une grande force, et aussi une grande force à créer le malaise.
Charlotte Garçon.
Mais il me semble que la réponse à ces questions éthiques, qu'il n'ignore pas du tout, elle vient. C'est une réponse physique, en fait, corporelle, de la part de Wang Bing, parce qu'on a l'impression. Il fait tellement corps avec sa caméra qu'on a l'impression, quand il est dans les dortoirs. Alors, les dortoirs, il faut dire qu'ils sont au-dessus des ateliers. Donc, c'est ça qui est extrêmement carcéral. On pense à son film sur l'asile psychiatrique. Ouais. C'est quasiment la même configuration spatiale. Donc, tout est organiquement lié pour faire qu'il n'y ait pas de dehors. Et le fait qu'il n'y ait pas de dehors, lui-même est pris dans ce non, dans cette clôture-là. Et c'est ça qui fait qu'il est engagé physiquement. Donc quand la personne lui dit « mais va dormir, ne filme plus, tu filmeras demain, va dormir », on comprend qu'en fait il dort aussi avec eux. Enfin, disons dans un lieu qui est semblable au lieu où il dort, mais on a l'impression que c'est cette proximité physique et cette absence de sommeil de sa part qui fait de lui aussi une sorte de forçat. De forçat du filmage, quoi. C'est-à-dire qu'il est obligé de continuer à filmer pour être à la hauteur du travail aussi qui est fourni par ces personnes. Donc, je trouve qu'il y a une réponse éthique qui passe par vraiment le corps du filmeur, quoi.
Florence.
Par rapport à ce côté carcéral dont parle Charlotte Garçon, c'est très juste, et j'ai été très frappée par le point d'entrée de l'atelier dortoir, qui revient de nombreuses fois dans le film, et qu'il filme quasiment en 3D. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, parce qu'à la fin, on a l'impression de le voir se découper devant nous. Et parce que c'est le seul point, enfin, c'est la sortie, quoi. Alors, il y a beaucoup de ces ouvriers qui veulent partir, qui veulent rentrer chez eux. Mais en même temps, ils ne peuvent pas partir sans leur argent. Et il y a une très longue séquence absolument extraordinaire avec un ouvrier qui s'est saoulé. Donc le patron ne veut pas lui donner d'argent tant qu'il n'a pas dessoulé. Et donc il est comme retenu en otage. Et il erre dans les couloirs. Et en effet, je pense que la comparaison avec l'asile psychiatrique est très juste pour ça.
Mais c'est vrai qu'on a avec Wang Bing et avec Tia Jiangke deux cinéastes immenses qui documentent, on a l'impression, en temps réel, les bouleversements qui sont absolument faramineux de ce qu'est la Chine aujourd'hui. Même si Tia Jiangke est de plus en plus dans la fiction, il n'en reste pas moins un cinéaste documentaire, je crois, fondamentalement. Wang Bing, lui, garde cette voie-là du documentaire et de la prêtre soldat ou prêtre ouvrier, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, Wang Bing, mais c'est vrai qu'on c'est un cas assez unique, me semble-t-il, dans l'histoire du cinéma et des filmographies, que d'avoir deux cinéastes d'un même pays, très différents au demeurant, mais qui regardent avec une telle précision la vie de leurs contemporains, de leurs concitoyens. Et bon, et cette vie-là, du coup, on n'a même pas parlé des sujets politique, économique, qui est vraiment au cœur de ce film, la question de l'exploitation, la question de l'aliénation, qui sont vraiment d'une violence extrêmement forte à imposer à ces travailleurs migrants, Thierry Chaise.
Je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est ce qui est vraiment frappant, c'est ce côté, l'histoire est en train de se faire. Comment est-ce que quelqu'un arrive à saisir ça? Et comment est-ce que quelqu'un arrive à saisir, finalement, ces hommes et ces femmes, on a le sentiment qu'ils ne se battent même plus. Alors, parce qu'ils ne dorment plus, parce qu'ils travaillent 24 sur 24, mais c'est vraiment très fort, c'est qu'on s'attend à un moment qui est un moment de révolte. Et ça, je trouve que le film est vraiment fascinant pour ça, et qu'il capte parfaitement. Ça, c'est que c'est la chair à canon, mais qui est alors totalement déshumanisée, totalement aliénée, on prend l'idée de l'asile psychiatrique, et il le montre vraiment très bien, juste par ce quotidien-là, par ces tâches répétitives, par ce fait que rien n'est jamais fini, qu'on a le sentiment que de toute façon une journée se termine, l'autre va recommencer au même moment, et qu'on n'a plus le temps de penser à rien. Et d'arriver à capter ça, et là pour le coup c'est aussi l'intérêt du temps long, même si 2h36 c'est un peu court pour lui, c'est qu'il faut, pour que nous on soit plongés là-dedans, nous qui ne sommes pas en cette culture-là, il faut accompagner, et il accompagne ça, et il l'accompagne, et c'est vraiment ce qui fait quelque chose de fascinant et de troublant à la fois pour moi.
Bah, longue durée, 2h36, ouais. Courte, mais on a vraiment l'impression de voir une première partie, parce qu'il ne s'agit pas de divulgâcher, mais le film s'arrête d'une façon si abrupte qu'on a l'impression qu'effectivement, une deuxième partie va suivre. Charles Garçon.
Mais quand vous dites déshumaniser, moi, alors là, pour le coup, je ne serais pas d'accord, parce que ce qui montre aussi, c'est que certes, ils sont obligés de suivre le mouvement qui n'est plus le collectivisme, mais qui est finalement semblable dans le sens où c'est le développement industriel et ils sont pris dans cette vague et ils doivent absolument faire un tout petit peu d'argent. Ils n'en font pas beaucoup. Hein. On voit beaucoup de choses qui sont produites, mais on ne voit pas où va l'argent. Enfin, voilà, où va l'argent que produit toute cette marchandise. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne les trouve pas du tout déshumanisés. Et c'est ça l'intérêt du film, c'est qu'il montre quels échappatoires, dans le sens où c'est des gens qui, filmés par Wang Bing, sont des individus. Ce qui, oui, pour nous, est une évidence.
C'est lui qui les réhumanise. Mmh. C'est sa caméra.
Ben, je pense que c'est son film. Oui, mais ce qu'il fait dans tous ses films, et il le fait avec les gens de l'asile aussi, c'est qu'il montre que... malgré toute l'histoire de la Chine, est en train de naître un individu. Enfin, l'idée même de l'individu est possible, et ça passe dans le film par une fille qui se brosse, par exemple, très très longuement, mais c'est un geste qui est gratuit, c'est pas un geste de travail, et par exemple, rien que ça, vu l'économie générale du film, ça devient une sorte de singularité et de liberté. Donc on voit qu'ils sont pas déshumanisés du tout. Et même inviter sa collègue de travail très maladroitement quand on est sous et faire une drague très très lourdaude à la limite du harcèlement, ce personnage-là du type qui est toujours sous, quelque part c'est aussi une marque de désir individuel. Et je trouve qu'il le filme comme tel.
Donc, Florence Colombani.
Il y a un moment assez terrible où une ouvrière essaie d'acheter des vêtements que donc elle a fabriqué, enfin contribué à fabriquer, à prix cassé quand même. Mais je trouve que ce moment est terrible parce qu'il y a une espèce de circularité de la vie, de l'existence, qui est qu'on passe quasiment toute sa journée à travailler, à produire, et ensuite qu'est-ce qu'on veut faire de son temps ? Eh bien, acheter ce qu'on a produit. Enfin, c'est assez terrifiant.
Le pire étant que quand elle veut l'acheter, elle dit que c'est pas bien fait, et le patron lui dit mais je t'ai payé pour le faire quand même, c'est toi qui l'as fait. Non, mais c'est une sorte d'absurdité, mais en même temps on en rit forcément, mais absolument terrible.
Oui, c'est dans ces moments-là que le film, je trouve, vient nous chercher, nous capte, parce qu'il a aussi, il faut quand même le dire, ces très longues séquences quasiment muettes et qui sont très douloureuses à voir aussi, parce qu'elles nous culpabilisent énormément, parce que le spectateur occidental qui est habillé de pied en cap, made in China, ne peut que se sentir très mal devant le spectacle des gens en train de fabriquer ces choses qu'on achète tous les jours. Et je trouve que c'est dans ces moments où l'individu émerge que le film nous touche vraiment profondément.
On arrête là pour Argent amer, le temps que Florence Colombani retrouve un tout petit peu de voix. C'est pas un verre d'eau qui suffira, hélas. Argent amer est sorti mercredi dernier sur les écrans. Vous avez compris qu'on vous invite très vivement à aller découvrir ce nouveau film de Wang Bing. À suivre dans la dispute, toujours en public du bar Le Bel Air à la Maison de la Radio, nous allons parler de Thelma et de Western.
France Culture,
la dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée le vendredi soir au cinéma, donc avec le nouveau film de Joachim Trier, Thelma. Joachim Trier, cinéaste norvégien qui avait créé la sensation, on va dire ça comme ça, à Cannes en 2011 avec son deuxième long métrage, Oslo 31 août, et avait globalement déçu, on va dire ça comme ça aussi, quelques années plus tard, 2015, toujours sur la croisette avec Back Home. Quel est-il en être donc avec Thelma, qui nous propose de suivre l'arrivée à l'université d'Oslo d'une jeune timide étudiante qui vient de quitter la maison assez isolée de ses parents.
Ser du hvor mange nye venner på Facebook-siden? stellt sig och tänker det du föll om så är det nog vidare som kan få det att ske.
Herre, fjärn detta från mig. Fräls mig för dessa tankarna.
Det är inte som har försvunnit. Utbara det, det är min färg.
Est-ce qu'il faut avoir peur quand on entend une bande-annonce comme ça? Ah mais c'était même pas fini en plus. Mais si Pierrick Charme ouvre le micro, moi je vois le rouge micro, je parle, hein, Pierrick. Quand même, depuis le temps qu'on travaille ensemble. Thierry Chaise, Thelma. Sans Louise, bon, comme ah, voilà, ça c'est fait.
J'en étais obligé.
Voilà.
Moi, enfin, ça lui fait du bien de revenir au pays, je trouve. Moi, j'avais été ceux qui étaient peu convaincus par Back Home. Là, il revient à la fois dans ce nord de l'Europe, et puis surtout, il va malgré tout sur des territoires qu'on a déjà beaucoup vus, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est éduquée dans la religion catholique la plus stricte, et qui, en découvrant la passion dans les bras d'une autre jeune femme, va devenir la proie de crises assez violentes. Alors on est à la fois donc le passage de l'enfance à l'adolescence, la découverte de la sexualité, cette frayeur qui est attachée à cette maturité qui grandit et qui va se confronter évidemment au rite à la fois d'une famille très religieuse et de la société. Donc on peut se dire, ah ben j'ai vu Carrie, j'ai pu voir la Féline de Tourneur, je vais faire un mix et tout ça. Et alors il y a un exercice de style dans tout ça, il y a quelque chose qui fait un élève très doué, qui applique quelque chose. Et en même temps, moi, je retrouve dans ce film-là tout ce que j'avais aimé dans ces deux premiers films, que ce soit donc en 31 août, en effet, ou l'autre dont le titre est vraiment échappé, qui s'appelait Reprise, ou Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, exactement. Mmh. Cette mélancolie-là, qui fait que d'un seul coup, par rapport à des schémas qu'on a eu l'habitude de voir, par rapport à des situations qu'on a eu l'habitude de voir, ça a fonctionné en tous les cas sur moi. Je trouve qu'il y a un trouble, qu'il y a une tension qui est exactement là. La bande-annonce la surligne très violemment. Moi, je l'ai trouvé beaucoup plus sobre que ça. J'ai été assez épaté par l'interprétation de la jeune fille qui s'appelle Ellie Arbaud. J'ai trouvé vraiment... Il y a quelque chose qui... Elle incarne physiquement ce film. Et donc, malgré tous les choses qui se mettent devant moi, les obstacles, j'ai fini par trouver la lumière au bout du film et j'ai plutôt aimé.
Oula, la révélation, ah, quasiment,
une révélation
pour
divine.
Florence Colombani, je ne sais pas si vous avez trouvé votre voix. Non.
On va oublier on va cesser d'espérer dans ma voix, mais au moins pour Thelma, moi, j'ai été au contraire de Thierry Chaise. Ce qui m'a plu, c'est l'exercice de style. Et ce genre du thriller psychanalytique à la Marnie, à la Carrie. Il y a aussi beaucoup de l'autre de Robert Mulligan qui fait vraiment... Enfin, il y a des scènes qui sont quasiment des emprunts, plus que des hommages. Il y a des clins d'œil à Hitchcock, etc. Tout ça fonctionne très bien parce que je pense que Joachim Trier, c'est un très grand cinéaste esthétique, esthète, mais c'est aussi sa limite. C'est-à-dire qu'il est extrêmement doué et virtuose et il nous séduit par la beauté plastique de l'image. Je trouve par contre que dès que le film prend le virage de la révélation du traumatisme enfoui dans l'enfance, qui finalement se détache du scénario qu'on attend, qui est que la découverte de la sexualité éveille une sorte de terreur sacrée chez cette jeune fille, voilà, et qui l'a fait quasiment plonger dans une sorte de folie. Il y a un deuxième acte où finalement le secret était dans l'enfance, il y a un traumatisme qui vient à jour, etc. Alors là, je trouve que vraiment le film pêche parce qu'il trouve un moyen commode et malhonnête de se débarrasser de ce traumatisme qui est quand même épouvantable, que je ne révélerai pas bien sûr, pour aller vers une fin heureuse, conventionnelle, hollywoodienne, je dirais, de libération, d'épanouissement. Et pour moi, il y a une sorte de paresse du scénario qui est difficile à pardonner à cause du côté brillant du film.
Charlotte Garçon sur Thelma.
Oui, alors je vous trouve bien précautionneux, parce que moi, justement, l'esthétisme en général m'horripile dans l'art. Et j'ai trouvé que c'est vraiment une sorte d'exemplaire de plus, et très appliqué en effet, parce qu'il est élégant, il est soigné, il y a des zooms avec des plongées voilà, on trouve le personnage sur cette grande place et puis on s'approche. Est-ce que ça va être elle, elle ou elle? Bon, bah, c'est une. Voilà. Mais en fait, ça n'est qu'un exemplaire de crossover. Hein, de, donc ça, on, c'est-à-dire un film, de, la chronique réaliste qui est perturbée par du genre, donc soit du fantastique, de l'horreur, etc. Et j'étais déjà à cette table, enfin, pas exactement dans ce bar, mais à cette table, pour parler de Grave de Julia Ducournau.
J'allais y venir.
Voilà, qui déjà m'avait exaspérée. Par son côté à la fois très léché, talentueux, on peut le dire. Il y a, formellement, effectivement, l'exercice de style est réussi, mais où je me demande à quoi ça mène et surtout de quelle urgence ça relève, sinon d'une application un peu scolaire et effectivement, c'est presque un trait générationnel. C'est-à-dire que je me dis que, ok, maintenant, le classicisme, c'est les années 70. Donc la base classique, c'est devenu les années 70, et qui était déjà un maniérisme. Et du coup, qu'est-ce qu'on a perdu depuis Hitchcock? Parce qu'effectivement, Marnie, les oiseaux, il y a aussi des allusions aux oiseaux. Mais le problème, c'est que chez Hitchcock, et y compris chez De Palma, il y a l'excès, il y a l'humour dans cet excès. Il y a une forme de grotesque. Et justement, c'est ce qu'il n'y a pas dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il est léché, c'est un téléfilm, disons, enfin, amélioré du point de vue de sa narration. Et c'est que de la psychologie. Et c'est une psychologie qui est traduite un peu bêtement et lourdement en termes surnaturels, quoi. Et je comprends pas l'intérêt, ni même l'urgence, la nécessité pour la personne qui fabrique ce genre de... d'œuvre.
Moi, je vous rejoins là-dessus. Je doute de la nécessité, en effet, de Joachim Trier sur ce film-là. J'allais dire un certain nombre de choses que vous avez déjà fort bien dites, Charlotte Garçon. Mais pour moi, ça me ferait presque reconsidérer mon avis très frais sur Grave de Julia Ducournau, qui au moins y allait. Alors que Joachim Trier, il reste dans une forme pas trop dérangeante, vraiment. Il se borde de tous les côtés pour pas que ça dépasse trop. Elle, moi, Julia Ducournau se confrontait au genre cinématographique. Là, vraiment, c'est voilà, des petits emprunts, des petits clins d'œil, enfin, emprunts, voire même parfois très appuyés, alors que le scénario, je suis d'accord avec vous, lui aurait permis de partir dans des directions beaucoup plus, au moins amusantes, si ce n'est urgente et nécessaire. Mais enfin, il y avait de quoi faire un beau film de genre. On a de belles interprètes, au sens non seulement physique, mais effectivement, heureusement que cette jeune comédienne est là pour vraiment porter le film, et sa camarade de jeu, Audie, aussi, si je puis dire, mais c'est quand même, tout ça reste gentil, quoi. Donc ça peut se regarder sans grand déplaisir, mais sans grand intérêt, me semble-t-il aussi. Ah, j'ai du mal ce soir. Boris Pinault, vous avez quelques commentaires sur ce film de Joachim Trier?
Oui, pour Christophe Despo sur Facebook, Thelma est le premier film de Joachim Trier à ne l'avoir pas plongé dans la léthargie.
C'est pas mal déjà.
Pas convaincu pour autant, je cite, on dirait un remake de Carrie par Denis Villeneuve. C'est un peu lourd, mais bien propre et très dans l'air du temps, sous ses allures de film de genre.
Ah, c'est pas mal, le remake de Carrie par Denis Villeneuve, on va transmettre. On vous fait reconsidérer votre avis, un peu Thierry Chaise.
J'étais partagé, moi j'ai ouais. Dit depuis le départ que j'étais partagé, mais c'est vrai qu'il y a sans doute, il y a un... plus que les années 70, moi c'est le genre qui est devenu en effet le nouveau classiciste, c'est-à-dire que d'un seul coup, il faut par le genre... et que ce soit des cinéastes européens ou américains, raconter quelque chose. Et c'est en effet, je suis tout à fait d'accord, c'est la limite de l'exercice, que peut-être y a-t-il aussi un moyen pour lui de se faire repérer par des producteurs hollywoodiens, voilà, sur d'autres domaines. On ne sait pas, mais il y a quelque chose. Il y a une patte, et la comparaison avec Denis Villeneuve est loin d'être saugrenue, en effet. On ressent, il y a quelque chose comme ça, de quelqu'un qui va sur différents genres, se réapproprie à sa sauce et fait un film qui peut mettre un peu tout le monde d'accord. Un film un peu consensuel sur un, voilà, alors que le film de genre, a priori, ne l'était pas.
Ah oui, mauvais genre. Ils fêtent leurs 20 ans samedi soir. C'est ce que c'est que le mauvais genre. Et là, ils s'y confrontent pas beaucoup. Notre ami Joachim Trier, Denis Villeneuve, voici le côté. Faut faire le bon élève, montrer qu'on est capable d'eux. C'est un peu ça, Florence Colomagne. Et beaucoup ont leur passeport pour Hollywood comme ça, faut dire.
Oui, mais je pense que, enfin, là où je ne rejoindrai pas mes camarades, c'est que je trouve que la notion d'exercice de style en soi n'est pas à gommer d'un trait.
Non, non.
Parce que, enfin, oui, c'est du surmaniérisme. C'est du maniérisme qui vient après le maniérisme de De Palma, Mais il y a un plaisir là-dedans et je trouve que c'est il y a une comparaison qui s'impose entre Thelma et Stranger Things, la série que tout le monde adore parce que justement elle est pleine de clins d'œil, parce que elle nous donne cette espèce de confort de la nostalgie. Il y a quelque chose comme ça dans Thelma. Alors, mais le problème c'est que ça se prend trop au sérieux et c'est en effet ce manque d'humour. Autant Stranger Things joue sur le côté confort, plaisir du samedi soir sous sa couette, autant Thelma veut être un film artistique en plus d'être un film dérivatif, et c'est sans doute là ce que ça pêche. Et moi j'ai toujours trouvé Joachim Trier, même dans Oslo 31 août, un cinéaste qui se prenait beaucoup trop au sérieux, et ça en pèse les films.
Oui, on n'a pas dit beaucoup de bien de Stranger Things à cette table même, à Charlotte Garçon, la semaine dernière. Sur le côté doudou, ça va quand même bien 5 minutes. Il s'agirait peut-être d'inventer plutôt que de chercher à revenir encore une fois très gentiment sur des formes existantes et des modèles existants, Charlotte Garçon.
Oui, et même des scènes à faire. Parce que combien de fois on va voir la scène de boîte de nuit où on n'a pas la musique qui est jouée dans la boîte de nuit, mais la musique en off et puis ensuite la remontée de la musique à la fin de la séquence. J'ai l'impression d'avoir vu ça 20 fois. Oui, et en même temps, c'est vrai que c'est bien fait, mais c'est psychologique. C'est-à-dire tout n'est que psychologie et on est englué là-dedans. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas non plus révolté sur son siège. Je suis d'accord, ça coule, ça glisse, mais c'est tiède. C'est... Moi, ça m'attriste véritablement. C'est vrai qu'il n'y a pas de quoi être en colère, mais en même temps, je n'avais pas pensé à la roublardise dont vous parlez, qui est de se faire repérer par Hollywood. Bon, là, il serait temps qu'il le repère et puis qu'on passe à... Voilà, qu'on passe à autre chose, mais du coup, ça, c'est ça le cinéma européen aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que le cinéma d'auteur européen devient un peu ce côté un peu chic, un peu voyou vers le genre. Et je trouve ça inintéressant. J'aurais préféré un film raté, mais qui essaye quelque chose avec des aspérités. Quoi. Mmh. Alors, c'est vrai que vous avez dit c'est bon, c'est plat. Il y a quand même une scène enflammée. Pour ne pas la décrire, une scène où quelqu'un prend feu, qui fait plutôt penser à Fanny et Alexandre et la mort du pasteur maléfique beau-père dans Fanny et Alexandre de Bergman, et où là on se dit, ah ben quand même, ça flambe un peu, il y a un peu quelque chose.
Oui, ou il a vu d'autres films peut-être que ceux qu'on a cités. Quoi.
Mais c'est vrai que sinon il n'y a pas de prise de risque, y compris physique en fait. C'est étonnant quand même d'arriver par la mise en scène presque à neutraliser un corps. Moi, je trouve ça très inquiétant, alors que Carrie, c'est le contraire.
Bon, ben écoutez, je crois que on va passer le podcast de l'émission à Joachim Trier hein, pour qu'il puisse penser à nous quand il aura la nécessité de faire un nouveau film. En tout cas, Thelma, lui, il est sorti sur les écrans mercredi dernier.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right
guy. Le troisième sujet de cette dispute cinéma, toujours en public du bar Le Bel Air, à la maison de la radio, nous attendons tous les vendredis. Peut-être une ambiance saloon à présent, puisqu'on va parler de western, c'est en tout cas le titre du film de Valeska Griesbach, réalisatrice allemande qui n'avait pas tourné de long métrage depuis plus de 10 ans, qui a pris, elle, le temps nécessaire. Et on va peut-être parler de nécessité pour ce qui la concerne. Elle a auditionné notamment plus de 600 personnes, ai-je lu, en Allemagne pour trouver sa distribution. Le film va suivre le quotidien d'un groupe d'ouvriers allemands sur un chantier d'infrastructure un peu mystérieux. Enfin, pour nos spectateurs, mais pas du tout pour eux, hein, ils travaillent. Hein. C'est dans la campagne bulgare qu'ils sont installés. On va s'intéresser plus précisément à l'un de ces ouvriers, Meinhardt, qui va chercher, lui, aller à la rencontre des habitants du village voisin.
Wo soll ich denn hin?
Nach Bulgarien.
Und was da?
Arbeiten? Da oben die Rezeption.
Arbeiten kannst du in Deutschland.
Hey, Neuer. Und warst du schon mal auf Montagen?
Bin hier, um Geld zu verdienen.
Und bist du ein Schlitzohr?
Ich bin verrückt geworden, oder? Hast du schon mal an die Einheimischen gedacht?
Ja, nur. Deswegen bauen wir ja ein Wasserkraftwerk.
Ja, wie geht's? Immer einen Anspruch, Mädel anspreche. Sagen wir mal.
Mädel.
Ja, genau.
Hallo.
Kaufst du Poderot?
Und Kadett, Pamutsche? Germane?
Браво и на двамата, браво. Колко си говорите с този немец.
Фана е свек. Не му са и надави вие за едно, бъде. Нареката? Ти. Да подпи жената. На него му е смешно, ама на теб ще се плаче. На теб ще се плаче.
И солдат, дигу нея.
Килор ли си?
Ich stehe nicht auf Gewalt.
Du kannst nicht einfach selbstständig sowas andrehen.
Wir haben hier was zu schaffen, was zu erreichen. Wir bringen hier Infrastruktur mit drin.
Dieser Kollege in dieser Dorf, große Problem, meine Freund.
Mein Leben ist manchmal kompliziert.
Ja, toll, Brat.
Meinhard, hast du angependelt?
Ich bin da miteinander oder gegeneinander.
Mich hält nichts zu Hause.
Kennst du kein Heimweh?
Was ist Heimweh?
Festival de langue hein, ce soir dans la dispute, ce qui me réjouit. On a entendu du chinois, du norvégien, à présent de l'allemand et du bulgare, mais justement, comment est-ce qu'on communique quand on ne connaît pas la langue de l'autre, c'est une des magies du film western dont on va parler à présent. Florence Colombani, si on nous voit, ça, vraiment ce soir, c'est idéal pour vous. En quelle langue parlez-vous, Florence, ce soir?
Je laisse chacun décréter en quelle langue je parle. Oui, la beauté de ce film, c'est d'avoir eu cette idée géniale d'appliquer le western à l'Est européen. Il y a une trouvaille là qui est absolument miraculeuse. On est presque déçus que ce soit le titre, parce qu'on aurait aimé deviner ça tout seul, je trouve. Elle a son personnage de héros ouvrier qui est le cow-boy solitaire, qui est extrêmement mystérieux et en même temps opaque et avec toute cette complexité du cow-boy qui nous a fascinés dans les westerns.
Il va trouver un cheval.
Exactement. Il y a des scènes de duel, il y a des parties de cartes, il y a vraiment tous les moments où on reconnaît avec quelle patte elle a choisi de faire ce film, qui finalement est un pendant assez passionnant au film de Wang Ding, parce que évidemment c'est la condition ouvrière dans notre Europe actuelle. Avec un déplacement par ailleurs assez étonnant d'allemand vers la Bulgarie, et non pas l'inverse qu'on s'attendrait davantage à voir. Et cette grande capacité qu'a Valeska Grisbach à capter du réel, alors je crois qu'elle travaille quand même avec des noms professionnels, qu'elle cherche longuement, mais ce sont des noms professionnels. Et ça se sent parce qu'on a toujours l'impression d'être là par surprise. Et c'est ce qui est tout à fait magique dans ce cinéma, d'être à la frontière entre une construction extrême et sophistiquée et intellectuelle, comme le titre l'indique, et en même temps une captation du réel.
Chat garçon sur western.
Oui, on pourrait même dire que c'est le réel qui gagne, parce que vous n'allez pas me croire, mais je vous promets que je ne pensais pas au western quand je voyais le film. C'est-à-dire que, en fait, c'est le contraire de quelqu'un qui utilise le genre comme une sorte de cache-misère à que dire, que montrer, etc. Et en fait, donc, le fait que ce soit le titre, quelque part, on s'en débarrasse aussi. C'est-à-dire que oui, il y a tous ces éléments. Évidemment, quand on les dit, ça paraît énorme. Et on se dit, bon, alors voilà, ça va être transposé. Ça va être un western, mais transposé à l'Est, transposé aujourd'hui, etc. Mais moi, je trouve que c'est pas ça qui est intéressant dans le film. C'est au contraire la façon dont même cette transposition, elle est en permanence nuancée et cassée, presque déconstruite par des petites interactions dans le réel. Alors on pourrait dire, mais c'est ce qui se passe dans le western. On arrive sur un territoire, on croit qu'on va le conquérir, enfin qu'il est sauvage. Et en fait, ici, dans ce film-là, justement, son propre mythe de l'homme solitaire qui viendrait dans un désert, en réalité, est complètement cassé parce que c'est habité, évidemment. Donc on voit ce groupe d'ouvriers allemands qui plante un drapeau allemand là, sur leur espèce de camp en dur. C'est pas un camp, c'est vraiment une sorte de fort plutôt, qu'ils ont installé. Et en fait, très vite, le personnage principal, Meinhard, va être beaucoup plus ouvert et va pouvoir échanger avec les gens du cru. Et ce qui est beau, c'est pas ce côté un peu bon enfant, enfin, de dire finalement, si on se parle, on va arriver à communiquer, même si on parle pas la même langue, et il suffit de danser, de faire une petite danse au village et tout va aller bien. Pas du tout. C'est l'ambiguïté tout, permanente de ce personnage, dont on se dit, en fait, il dit qu'il a été légionnaire, mais on n'est pas sûr. Il dit qu'il dit tout le temps, la violence, c'est pas pour moi, hein, de manière comme ça, très entière et digne. Et en fait, il a un couteau. Non, on s'aperçoit qu'il sort un couteau au bon moment à chaque fois. Donc, en fait, c'est un personnage que le film met à distance de manière très subtile. Et notamment, je trouve, en mettant à chaque fois des sous-titres quand les villageois bulgares parlent. Ce à quoi ce qu'on pourrait critiquer en disant, mais oui, mais lui, quand il leur parle, il ne comprend pas ce qu'ils disent. Oui, mais on n'est justement pas entièrement de son côté. Et je trouve que c'est ce qui fait le prix de ce film, de se situer à une certaine distance, y compris de ce personnage qui n'est pas mythifié justement comme un cow-boy. Là, ça m'aurait déçu si ça avait été juste voilà, l'histoire d'un ouvrier qui est en fait un cow-boy.
Thierry Chaise.
Moi aussi, j'ai vraiment adoré. Je passe ces deux heures absolument passionnantes pour ça, parce qu'on ne sait en effet jamais sur quel pied danser, sur ce travail sur la langue, puisqu'on voit, on voit bien qu'en fait, il ne suffit pas en effet de danser ensemble et de parler, c'est qu'à un moment, entre un signe amical et un signe de désapprobation, il y a une distance qu'il ne comprend pas ou fait semblant de ne pas comprendre, d'un côté comme de l'autre. Et moi, j'aime bien aussi ce côté, il y a des affrontements sur le papier très binaires. Il y a d'un seul coup, les Bulgares contre les Allemands. Il y a les hommes, les femmes, il y a les justes, les corrompus. Et puis tout ça va exploser parce que ce monde-là est en train de s'effriter. Qu'il y a justement ces oppositions-là n'ont plus cours aujourd'hui parce que quelque chose les a détruits petit à petit, de l'intérieur. C'est ce côté justement du nouvel ordre mondial, du nouvel ordre économique qui fait que tout ça n'a plus vraiment de sens et que chacun va être perdant, que les duels peuvent être un petit peu grotesques. Tout est plus fort que ça. Et le film ne le martèle pas. Le film le montre justement au fur et à mesure de cette ambiguïté, du fait que par moment on est avec lui, puis par moment on est vraiment contre lui, par moment on a peur. En effet, on se demande si, à chaque fois qu'on lui demande de parler un peu de son passé de légionnaire, il évacue ça. Alors, parce que c'est un héros qui parle peu, il le fait par un sourire ou par un regard, mais je trouve que ça c'est vraiment formidable. Et une fois encore, c'est une manière, et on compare en effet à Bombique, de raconter l'Europe en train de se déconstruire, de se démythifier de manière très forte par de la fiction et par une fiction passionnante.
Alors, et puis c'est un film qui n'est pas du tout manichéen, ce qui aurait été évidemment facile et qui aurait fait un mauvais film, ce qui n'est pas le cas. C'est un film qui est quand même très rugueux, hein, comme ses personnages. C'est un film, moi, qui m'a beaucoup angoissé tout du long, mais ça vient très très vite. Et pendant les deux heures de projection, on se dit mais qu'à tout instant, une situation peut mal tourner, qu'à tout instant, il peut se passer quelque chose de grave. Ça arrive parfois, d'ailleurs, mais peut-être pas aux endroits où on croit, parce qu'en plus, il y a un sens du montage très particulier, Valeska Griesbach, qui fait qu'on entre dans les scènes comme par effraction, on en sort aussi sans qu'on puisse se douter que la scène allait être interrompue. La chronologie est très douteuse. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait dans l'ordre, les scènes qu'on voit, dans l'ordre du temps réel, de la fiction. Et en même temps, ça amène du coup sans cesse à s'interroger. Mais alors, il faisait nuit le plan d'avant, et là, on est où, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Enfin, il y a aussi beaucoup de place qu'on aime quand même, évidemment, beaucoup pour le spectateur, pour notre imaginaire, et pour... Vous parliez de ce passé mystérieux du héros, mais du coup, on met ce qu'on veut dedans. Et dans les relations aussi, on attend toujours les coups fourrés, en même temps, ils ne sont pas là où on les attend. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses complexes. Et puis, quand je dis pas manichéen aussi, c'est que il y a le chef du chantier qui est censé être le méchant, le vilain, etc., mais qui dit de temps en temps ce qui est assez juste. Il dit, mais en fait, on travaille pour faire leur infrastructure, on est là pour les aider. Enfin, c'est une mission qui va leur servir. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir quelques avantages. Donc, ce qui n'est pas complètement faux. Et après, son attitude, parfois, est plus ambiguë que cela. Enfin, on est, comme vous le disiez, les uns et les autres, ni d'un côté, ni de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant et qui permet d'envisager la situation sous des tas de regards différents d'enfants, d'adultes, d'une grand-mère, des Allemands, des Bulgares, Florence Glambani.
Oui, c'est un film qui respire et qui laisse en effet le spectateur être un acteur et aussi qui laisse la place à l'histoire, à une sorte de sédimentation de l'histoire. Ça, c'est quand même quelque chose de très passionnant parce que c'est à la fois une photographie du moment qu'on vit aujourd'hui, mais c'est aussi une évocation très en creux et de façon très subtile de ce qui s'est passé entre la Bulgarie et l'Allemagne. Mmh. Ce drapeau allemand, évidemment, il réveille des souvenirs douloureux pour certains habitants, et il y a une allusion qui est faite à la Deuxième Guerre mondiale. Mais en même temps, on nous laisse comprendre ce que ça a pu tisser et en quoi ensuite la construction européenne a pu faire mine d'apaiser, mais n'être qu'un pansement. Il y a quelque chose qui vient aussi créer le malaise, parce que on comprend qu'aucune vraie solution n'a jamais été donnée aux habitants pour penser leurs blessures. Il y a eu simplement une sorte d'impression qu'on avait avancé, et en même temps, à tout moment, le passé peut ressurgir très à vif.
Claude Garçon.
Oui, puisque la Bulgarie faisait partie des forces de l'Axe. Mais c'est vrai que cette sédimentation, elle est extrêmement subtile, de même que finalement tout ce qui est identitaire est subtil et vraiment cassé en petits morceaux dans le film, dans des petites interactions, et notamment on est toujours l'exilé ou l'expatrié de quelqu'un. Et ce personnage de femme qui, au début, est harcelé un petit peu par le chef de chantier qui la drague plus que lourdement, on s'aperçoit beaucoup plus tard qu'elle va lui répondre en allemand. Mmh. Parce qu'elle elle aussi, en fait, elle est là uniquement pour des vacances, mais elle vit de l'autre côté. Donc, à chaque fois, il faut aussi se souvenir que ces Allemands viennent de l'Est, de l'Est de l'Allemagne, et que donc, c'est pas du tout le même rapport à l'Est
qu'ils ont. Au monde.
Voilà. Et tout ça est très, très subtilement amené. Alors c'est vrai que on a parfois l'impression que le film est fait un peu du surplace ou parce que c'est pas une action très c'est que des petits moments, mais je trouve ça très réussi, et du coup ça m'a donné envie de revoir son film que j'avais beaucoup aimé, Désir, Sehnsucht, et qui était cette fois-ci très subtilement aussi une approche, une construction d'un mélodrame à partir de quelque chose de très très naturaliste, d'une fêlure qui venait comme ça dans la vie banale, on pourrait dire, d'un homme à partir d'un adultère. Et combien finalement le rapport au genre cinématographique est différent quand on va à petits pas vers quelque chose, quand on ne perd pas le présent du filmage, plutôt que de se couler comme ça dans des sortes de genres qui sont à visée commerciale au fond, d'une façon ou d'une autre. Donc vraiment c'est assez remarquable.
Thierry Chaise.
Oui, les personnages de femmes, je trouve vraiment très intéressant, parce que ce film parle aussi de la virilité et de la masculinité entre, en effet, ce chef de chantier qui va conquérir une proie quasiment, et puis ce personnage central qui, lui, va finalement s'en approcher très tranquillement et va peu à peu gagner la confiance et l'amour de cette femme. Et on va s'apercevoir que finalement, le moment où ça va exploser, c'est quand les villageois sauront qu'il a couché avec cette femme, qu'il y a plein d'autres endroits où ça aurait pu éclater, et que le moment de violence surgit parce que on a touché à la jeune femme du village. Et je trouve que, voilà, dit comme ça, raconté, c'est un film en fait qui a 10 milliards de sujets, alors qui en effet peut avancer petit à petit, mais parce qu'on se pose 10 milliards de questions, un, dans l'inquiétude, et deux, parce que quasiment chaque scène, et surtout chaque scène qui réunit toutes ces personnes autour d'une table, je pense qu'on peut le voir 10 fois, on verra jamais le même film, en fait, suivant qu'on s'intéresse à une réaction d'une des 6 ou 7 personnes à table ou à une autre. Et là, comme on parlait d'Ouamik tout à l'heure, il y a une capacité à donner les commandes aux spectateurs qui, moi, me fascine. Je l'ai vu, moi, juste avant l'émission, dans une salle qui était pleine, et ça m'a ravi, et on sentait les gens débattre en sortant, parce que personne n'avait quasiment vu le même film, et je trouve ça passionnant sur un film de 2 heures.
Oui, parce qu'il y a cette dimension géopolitique qu'on a abordée tout à l'heure, sur la... on est à l'Est, mais ils viennent de l'Est, et puis il y a la frontière grecque aussi, toute proche, qui est aussi un acteur important et ô combien de l'Europe, et avec d'autres enjeux économiques, politiques, historiques. Mais c'est vrai que c'est au début du film surtout que l'arrivée des Allemands, ça leur rappelle quelque chose, hein, au plus ancien du village, la dernière fois que les Allemands sont venus, 3 petits points. Mais ça peut être aussi un homme qui dit, ah ben au moins les Allemands, ils étaient bien habillés, ils étaient intelligents, ils racontent un assaut justement donné vers la frontière grecque, plein de malice, enfin. Enfin, il y a cette admiration, cette crainte, tout ça se mélange et c'est répercuté aussi sur les différents personnages du camp, parce qu'on a parlé du chef de chantier de Meinhardt, mais il y a quand même toute une sorte de micro-société, comme une Allemagne en concentré, avec le cuisinier, avec les joueurs, avec les dragueurs. On a une sorte d'image qu'on n'a pas l'habitude de voir d'une certaine Allemagne qui doit s'expatrier pour aller chercher le travail. On ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer au pays. Là aussi, il y a des coups de fil comme dans le film de Wang Bing avec la femme restée. Dans Wang Bing, c'est plutôt les femmes qui partent et qui appellent les maris. Mais on a cet éloignement-là. Enfin, on a une richesse. Et plus on en parle, et plus me reviennent en effet des images, Charlotte Garçon.
Mais c'est quand même pas un hasard que le film soit produit par Maren Hade, qui a réalisé Tony Erdmann, parce que dans Tony Erdmann, c'était une cadre expatriée en Roumanie. Du coup, on était plus dans des hôtels de luxe, alors que là, le film commence dans un dortoir, ce qui le rapproche effectivement du film de Wang Bing. Et ça fait du bien aussi de voir. Alors, on voyait dans Tony Erdmann la colonisation, disons, par des gens qui venaient faire des plans sociaux, en fait. C'est des super consultants qui venaient aider les entreprises à rationaliser, soi-disant, leurs coûts, etc. Mais c'était finalement le film Tony Erdmann qui était très jubilatoire, mais se repliait quand même beaucoup sur la question du rapport père-fille. Tandis qu'ici, le film est effectivement beaucoup plus poreux et aussi, du coup, beaucoup plus risqué parce qu'on est peut-être moins embarqué dans une relation affective. Cet homme reste un homme tellement déroutant que on n'a pas un rapport d'identification très fort, même s'il ressemble beaucoup à Jack Palance, ce qui n'est pas est assez séduisant.
Jack Palance, fatigué de l'Est. Mais vous parlez de Maren Hade, mais on est encore avec Valeska Griesbach dans cette, ce qu'on a appelé alors corps défendant, cette école de Berlin qui a émergé au début des années 2000, qui a donné quand même quantité de cinéastes, tous passionnants. C'est avec Valeska, Griesbach, c'est pas la plus prolifique, ça doit être son troisième long métrage seulement en 15 ans à peu près d'exercice. Mais ils n'ont pas voulu qu'on les appelle nouvelle école de Berlin. Ils sont quand même extrêmement présents dans le paysage, tous et toutes, avec des cinématographies assez différentes, mais qui parlent d'ici et maintenant. Enfin, c'est quand même quelque chose de puissant qu'on a peut-être pas assez bien perçu. Finalement, Thierry Chaise.
Oui, parce que c'est surtout qui continue au fil des films. Oui. C'est-à-dire que ça aurait pu être un moment.
Il y a toujours un qui produit l'autre.
Voilà. Il aurait pu avoir un moment, il aurait pu avoir 2 ou 3 ans d'un seul coup. Mais on a le sentiment qu'ils tissent, en fait, chacun une sorte de famille. Alors, en se produisant l'un l'autre ou parfois en n'ayant pas de rapport, mais ils nous racontent aussi ce monde-là et de manière toujours avec le talent du scénario et de la mise en scène. Il faut quand même les filmer, ces scènes de repas d'échanges pour qu'elles ne soient pas ennuyeuses sur 2 heures. Je trouve qu'il y a vraiment ça. Je trouve qu'il y a aussi une manière très subtile de ne pas souligner les choses. On parlait de gens qui partent chez les Bulgares. Il y a des parents qui sont partis. Par exemple, le fils est seul parce que les parents sont aussi partis. Donc tout le monde est en train de... Et je trouve qu'il y a une... C'est presque un humour noir quasiment derrière tout ça qui est très bien rendu. Et je pense que toute cette école-là, en effet, a cette manière de s'emparer du réel, mais pour en faire quelque chose. On parlait presque de Wang Bing, qui est un documentariste dont on peut penser qu'il peut faire fiction. Là, c'est une fiction qui peut faire documentaire. Et je trouve ça... Mais aussi pour ça passionnant.
Charlotte Garçon.
Parce qu'elle est nourrie d'entretiens filmés, si j'ai bien compris. C'est-à-dire les 600 personnes auditionnées pour le casting, c'est pas uniquement ça, c'est aussi vraiment, il y a un enregistrement de leurs paroles, dont celle de Meinhard Neumann. Peut-être qu'à un moment, ça va ressortir quelque part, mais tout ça demande du temps. C'est effectivement pas du tout le même travail que des gens qui travaillent pour se faire remarquer par Hollywood, je pense.
Là, on sent la nécessité. Je le disais dans mon lancement, il y a une nécessité pour Valeska Griesbach de faire ce film.
Oui, il y a un travail de fond d'observation. Après, c'est vrai que parfois, ça peut rater parce que ça peut mal faire fiction. Il faut quand même reconnaître qu'on cherche aussi un plaisir du récit. Et parfois, dans ce film-ci, on est un peu dérouté. On n'est pas sûr de bien comprendre ce qui se passe ou s'il y a vraiment une action en cours. Et c'est là où ça peut retomber sur des codes du western. Ah bah oui, là, c'est un duel. Bon, là, il y a un cheval, donc ça va. En tout cas, il y a ce fond d'observation et ça réclame absolument du temps et aussi des moyens de temps pour le faire.
Voilà, vous avez compris, là, pas de dispute concernant Western de Valeska Griesbach, mais en tout cas une forte incitation à aller voir par vous-même et continuer à ce que les salles qui projettent ce film soient bien garnies, ce qui est absolument réjouissant. Et Et avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure du jeu, le jeu de la dispute avec Grégoire Difiore et qui nous rejoint chaque soir pour nous, d'une part, nous dire quelle était la réponse à la question du jeu d'hier soir et puis, dans un instant, dévoiler la nouvelle question d'abord hier soir.
L'acteur principal du film western n'est pas un acteur professionnel. Quel est son métier ?
Et la réponse était ?
Ouvrier dans l'automobile.
Voilà ce qu'est Meinhardt. Mais sacrée présence à l'écran. Hein. Ce soir, on fait gagner des invitations pour découvrir l'exposition sur grand écran David Hockney à la Royal Academy of Arts. Ce sera le 28 novembre au cinéma. Quelle est la question ?
À quel artiste David Hockney a reproché un processus créatif insultant les artisans.
Votre réponse à cette question complexe, avec vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast de la dispute. Lundi, 19h, dispute spectacle vivant. Je serai avec Marie-Josée Sirache, Anna Sigalevitch et Philippe Chevillier. Nous parlerons de professeur Bernardi dans une mise en scène de Thomas Ostermeyer, Je suis un pays, création et mise en scène de Vincent Macaigne et Maîtres anciens, d'après Thomas Bernard, adaptation Nicolas Bouchot.